L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
J'aimerais ça maintenant inviter le pasteur Jérémy Sourdrille. Il va s'approcher maintenant pour venir vous livrer ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Vous pouvez l'accueillir chaleureusement, pasteur Jérémy. Bon matin, pasteur Jérémy. On va juste étendre nos mains et puis on va recevoir ce message et recevoir l'homme de Dieu qui va nous partager ce message-là. Merci Seigneur Dieu pour pasteur Jérémy. Merci Seigneur pour ce don que tu as fait à cette maison. On le reçoit aujourd'hui. On te remercie Seigneur Dieu pour ton onction qui coule à travers sa vie, à travers sa bouche. Merci parce que tu remplis sa bouche de tes paroles. On te bénit au nom de Jésus. Amen. Sois béni pasteur Jérémy.
Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? J'aimerais qu'on puisse juste se lever un instant, s'il vous plaît. On va confesser quelque chose. On va déclarer « J'ouvre mon cœur à la parole de Dieu ». Et vous ne faites pas juste répéter, vous le croyez de votre cœur. Et vous le dites avec votre bouche. « J'ouvre mon cœur à la parole de Dieu ». Seigneur, viens m'enseigner. Viens me parler, viens me diriger, viens m'apprendre. Je veux ouvrir mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. Rends-moi intelligent dans ce monde pour comprendre comment tu agis et comment sortir des situations difficiles que je peux traverser dans ma vie. Mon cœur est ouvert maintenant. Je reçois la parole de Dieu, je marche dans l'amour de Dieu, dans le pardon de Dieu et dans la bonté de Dieu. Saint-Esprit, je crois que tu me parles et tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Amen. Je vous invite à vous asseoir et aller dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux au chapitre 2, et je voudrais simplement honorer, puisque l'occasion m'est donnée, nos pasteurs, pasteur Joël et Mathilde, pour leur confiance, pour leur amour, pour la francophonie, leur amour pour le français que je suis, et la possibilité qu'ils me donnent de pouvoir exercer le ministère au sein de leur propre ministère. Hébreux 2 au verset 14. La Bible dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham, qu'il vient en aide. » Ces versets nous disent que Jésus est venu afin d'écraser la puissance de la mort, c'est-à-dire d'écraser Satan. Il est dit littéralement, le terme écraser, c'est en fait réduire à l'impuissance. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu réduire à l'impuissance le diable et son autorité. Lorsque Jésus est venu sur cette croix, et qu'apparemment, il avait perdu. Ce que le diable ne savait pas, c'est lorsque Jésus mourait et lorsqu'il allait ressusciter, il allait dépouiller le royaume de l'enfer. Et la Bible nous montre ici que nous avons nous aussi participé au sang et à la chair. À partir du moment où nous avons accepté Jésus, que nous avons mangé son corps et que nous avons bu son sang, à partir de ce moment, la Bible nous dit que nous faisons partie de cette race élue. Ce sacerdoce royal, ces ambassadeurs de Christ qui ont écrasé l'ennemi de leur âme. Nous sommes dans une place céleste et la Bible nous dit que Jésus est venu écraser Satan. Au verset 16, nous lisons « Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Et il est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. J'aimerais vous parler ce matin de l'esprit de crainte. L'esprit de crainte qui se traduit par de l'intimidation. L'esprit de crainte n'est pas créé et n'a pas été créé pour l'être humain. En fait, Dieu ne l'a jamais créé. Le diable l'a amené dans ce monde pour rendre les gens esclaves. Mais Dieu n'a jamais créé la crainte. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, alors qu'ils ont participé au corps de Christ, alors que Satan est sous leurs pieds, ils vivent dans cet esprit de crainte qui les amène comme des esclaves. Ils connaissent la parole de Dieu, ils prient, ils vont à l'église, mais dans leur vie quotidienne, ils marchent comme des esclaves dans un esprit de crainte. Nous pouvons aller dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 6. 2 Timothée 1, 6. L'apôtre Paul va parler à son fils spirituel, Timothée. Timothée avait un cœur pour Dieu, il voulait servir Dieu, il voulait voir la gloire de Dieu, il voulait que des gens puissent être sauvés. Et l'apôtre Paul va lui dire, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte ou encore un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qu'est-ce qui a éteint le don de Dieu dans la vie de Timothée ? L'esprit de crainte. Qu'est-ce qui éteint le don des croyants dans leur vie ? C'est l'esprit de crainte. L'esprit de crainte va paralyser la mesure de foi que Dieu t'a donnée à ta nouvelle naissance. La crainte va paralyser dans ta vie cette mesure de foi nécessaire, suffisante, que Dieu t'a donnée à la nouvelle naissance. Que tu ressentes ou pas la foi, la Bible dit que tu as reçu une mesure de foi. Elle est en toi, elle habite en toi. Et cette mesure de foi peut être complètement paralysée, anesthésiée par la crainte, par la peur, par la domination satanique. Nous avons reçu la foi, elle se trouve en nous. Mais cette foi peut être paralysée, anesthésiée, rendue impuissante. La Bible nous dit que c'est le diable qui est devenu impuissant. Et si nous marchons dans l'ignorance, ou si nous ne marchons pas dans notre autorité en Christ, nous allons prendre la place du diable. Et c'est exactement ce qu'il veut. C'est ce qu'il voulait en parlant à Adam et Ève, que Adam et Ève puissent, comme lui l'a fait, regarder et se dire, finalement, je peux être comme Dieu et même plus élevé. Et ils ont été réduits à la mort. Et c'est exactement ce que le diable veut faire dans la vie des croyants. Il veut les amener à la mort. Il veut les amener à marcher en tant qu'esclaves, alors qu'ils sont fils et filles de Dieu. Il veut les faire marcher dans la tristesse, dans la mélancolie, dans toutes sortes d'amertumes et de difficultés, alors que ce sont des conquérants, alors que ce sont des ambassadeurs, alors qu'ils ont l'héritage de Christ. Et tout est à eux, tout est possible à celui qui croit. Et le diable veut amener un esprit de crainte sur l'Église afin de te rendre impuissant, afin de te rendre incapable, afin que tu ne puisses jamais marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. L'esprit de crainte n'a aucun droit légal de t'environner. La faveur de Dieu a le droit légal de t'environner. La bénédiction a le droit légal de t'environner. Tous les privilèges de Dieu ont le droit légal de t'environner. La présence de Dieu peut nous environner, mais la crainte n'a aucun droit légal d'environner celui qui marche en Jésus-Christ. Aucun droit légal. Alors que lorsque la crainte vient sur toi, tu as l'autorité de la faire fuir. Lorsque le policier t'arrête parce que tu as roulé vite, quelle que soit ta fonction, il a le droit légal de te mettre une amende. De la même façon, tu as le droit légal de mettre une amende au diable et à la crainte, en lui montrant qui t'a sauvé. Et en lui montrant qui habite en toi. Alors comment donne-t-on autorité à l'esprit de crainte ? Nous donnons autorité à l'esprit de crainte de deux façons. Par le péché ou par l'ignorance. L'ignorance va t'amener dans la crainte. L'ignorance va t'amener dans la peur. L'ignorance va t'amener à voir, à lire ce que dit la parole de Dieu, mais à ne pas la comprendre au niveau de ton esprit. Le péché va amener le diable un accès en toi. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comment donne-t-on autorité à l'esprit de crainte ? En acceptant les messages qu'il véhicule, les messages qu'il transporte. Parce que la crainte, elle parle, elle a une bouche. Et cette crainte, elle te transporte un message. Elle te dit quelque chose, tu peux entendre sa voix, ou alors elle va te montrer quelque chose. La crainte peut se manifester dans un rêve. Tu te vois en train de faire quelque chose et ça t'amène à la peur. C'est ce qu'on appelle les cauchemars. La crainte peut aussi te montrer, même dans ton imagination, quelque chose. Elle peut te montrer ce que tu vas devenir, ou plutôt ce qu'elle aimerait que tu deviennes. La crainte a un langage, elle véhicule, elle transporte un message. De la même façon que l'Esprit de Dieu transporte un message, et il est là pour nous rassurer, pour nous aider, pour nous édifier, pour nous rendre inébranlables, de la même façon, l'esprit de crainte transporte un message pour que tu puisses être ébranlé dans ta foi, pour que tu puisses être rendu à rien, impuissant, alors que tu marches avec Dieu. Comment l'esprit de crainte opère-t-il? L'esprit de crainte nous projette une vidéo. Tu es là en bonne santé, mais tu commences à penser maladie. Et tu dis, oui, mais dans ma famille, il y a ceci, il y a cela. Alors, l'esprit de crainte. L'esprit de crainte te montre tes enfants. Et là, tu es en train de penser à tes enfants. Et de les voir malades, de les voir mourir, de les voir vivre toutes sortes de difficultés. L'esprit de crainte. L'esprit d'intimidation. Elle parle. Mais s'il arrivait un accident à ton fils, qu'est-ce que tu ferais? L'esprit de crainte. L'esprit de crainte. Si cette douleur que tu as dans ton estomac, et si c'était un cancer? L'esprit de crainte, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il peut dire encore, ne fais pas ce que tu as sur ton cœur, parce que qu'est-ce que penseraient les autres personnes? L'esprit de crainte. Ou, ne prie pas pour les malades, parce qu'il est possible qu'ils restent malades. Esprit de crainte. Ne fais pas ce que Dieu a mis sur ton cœur, parce que peut-être tu échoueras, tu ne réussiras pas. Esprit de crainte. Ne lui parle pas de Jésus parce que peut-être il va se moquer de toi. Il ne va pas t'accepter, il va te rejeter. Esprit de crainte. L'esprit de crainte n'est pas fait pour l'être humain. L'esprit de crainte anesthésie la foi de l'Église. L'esprit de crainte empêche les dons que Dieu a mis en toi à être dévoilés et tu ne pourras pas briller tant que l'esprit de crainte sera sur ta vie. Et l'esprit de crainte, sachez-le, il ne vient pas là de manière à frapper le regard. De la même manière, il imite tout. La Bible nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards, et de la même façon, la crainte ne vient pas de façon à frapper ton regard. Elle ne vient pas dans ta vie et te dire « Je suis l'esprit de crainte et je te parle ». Non, elle vient fallacieusement. Vous aimez ce mot, vous les Québécois? Elle vient d'une façon détournée, toute douce, te parler tranquillement, tranquillement. Comme le vent que parfois tu ne peux pas ressentir, il est si doux. Il est là, tu es en train de faire tes activités, tu ne réalises pas que peut-être même le soleil est en train de frapper sur toi. Tu es une jeune demoiselle, tu te dis « Oh, je vais bronzer ». Tu te mets dans ton jardin et là tu commences à lire, à lire, à lire. Et tu arrives le soir et quand tu te douches, tu t'aperçois que ta peau se disloque presque parce que tu as pris un coup de soleil. Tu ne t'en es pas aperçu. L'esprit de crainte agit de la même façon. Il parle, il transmet un message. Et ce message, lorsqu'il est accepté, il commence à entrer en toi et à descendre plus profond de ton âme et de tes pensées et il te rend incapable de servir Dieu. Ce sont des mensonges sataniques qui viennent pour paralyser la vie de Dieu en toi. Jésus a dit « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein ». C'est le désir de Dieu. Jésus a dit « La vie de Dieu, Zoé, coulera de ton esprit ». Et si la vie de Dieu, Zoé, ne coule pas de ton esprit, c'est parce que certainement l'esprit de crainte est quelque part dans ta vie. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si la liberté ne se manifeste pas dans ta vie, c'est que tu marches encore comme un esclave. Jésus a dit « Des fleuves d'eau vive couleront de ton esprit ». C'est notre héritage, c'est notre privilège d'avoir un esprit libéré, de pouvoir marcher dans cette vie sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité, de condamnation, de tristesse, mais de marcher dans la paix, de marcher dans la joie de Dieu, de marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous de toute éternité. C'est le désir de notre Dieu d'amener cette race élue et que cette race élue puisse regarder à celui qui, lorsqu'on détourne nos regards vers lui, nous rend rayonnants de joie. Quels sont ses objectifs? L'objectif de l'intimidation, l'objectif de la crainte est de te limiter, est de te contrôler, est de te manipuler. Son objectif, c'est de te dépouiller de ton autorité, c'est de te dépouiller de ton courage, c'est de te dépouiller de ta confiance en Dieu. Dieu dit, voici ce qu'il t'arrivera. J'ai promis la bénédiction sur ta vie, mais l'esprit de crainte dit oui, mais. L'esprit de crainte, oui, mais tu ressens ceci. L'esprit de crainte dit oui, mais telle personne a vécu cela. L'esprit de crainte dit oui, mais tu sais, tu as déjà essayé, ça n'a pas marché. C'est l'esprit de crainte, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Une promesse illimitée, complètement illimitée. Il veut nous manipuler, nous limiter, contrôler et nous dominer, afin que les richesses de Christ qui sont dans ton esprit ne puissent pas se manifester. Lorsque la vie de Dieu se manifeste au travers de ta vie, la joie remplit ta vie. Plus elle se manifeste, plus tu es joyeux. Plus elle se manifeste, plus elle se libère dans ta vie et plus tu es rayonnant de joie. Où attaque-t-il ? Où attaque-t-il l'esprit de crainte ? Dans nos pensées. Il attaque la tête. L'esprit de crainte n'attaque pas le corps. L'esprit de crainte n'attaque pas l'esprit parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il ne peut rien venir dans notre esprit. Extrait de cours de Libem. Inscrivez-vous. La Bible dit dans Proverbe 18:14, les pensées de l'homme le soutiennent, ou encore l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'âme abattue, qui la relèvera ? Si tes pensées sont dominées par la crainte, elles sont affaiblies et tu deviens incapable au service. Proverbe 17:22, un cœur joyeux est un bon remède, mais une mentalité abattue dessèche les eaux. Le diable, l'esprit de crainte, attaque tes pensées. Il attaque ta mentalité parce qu'il sait qu'il ne peut pas toucher à ton esprit. Le diable peut attaquer le corps, oui, l'esprit de crainte, non. Le diable peut attaquer le corps, mais ce n'est pas sa cible directe. Lorsque la crainte attaque ton corps, ce n'est pas la cible directe. Ce n'est pas sa cible. On a parlé de golf tout à l'heure. Quand tu joues au golf, il y a une cible. Tu dois mettre ta petite balle dans un trou. $85. Non, moi j'y serais certainement. Sa cible, ce sont nos pensées. Il y a un homme du nom de Vic Vujicic. Cet homme est né sans bras ni jambes. Donc il n'est pas très grand. Il prêche l'évangile partout sur toute la terre. Il a des espèces de pieds comme ça, il appelle ça des, je ne sais plus comment, mais d'une façon un peu drôle. Le diable, son objectif n'était pas, sa cible directe, sa cible précise n'était pas son corps. Sa cible était ses pensées, sa mentalité. Cet homme, bien que attaqué dans son corps, n'a pas laissé sa mentalité être attaquée. Mais il a dominé sur ses pensées. Son corps peut être attaqué de toutes parts, mais sa mentalité est forte. La Bible dit Proverbe. Un cœur joyeux est un bon remède, mais une mentalité abattue dessèche les eaux. Le cœur de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'âme abattue, qui la relèvera ? Et voilà un homme qui est riche, qui a une bonne famille, tout va bien, les finances, il est prospère, et la dépression vient dans sa vie. Et à cause de cela, le voilà dépressif et triste. Les mentalités. Le diable, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de toucher ton corps, ce qui l'intéresse, c'est de toucher ta tête. Et pour toucher ta tête, il essaiera par tous les moyens. Il pourra essayer avec ton cœur, il pourra essayer avec des circonstances dans ta vie, il pourra essayer avec du manque, avec toutes sortes de choses, mais ce n'est pas sa cible directe. Sa cible, c'est qu'est-ce que tu vas faire alors qu'il t'attaque. S'il arrive à toucher ton âme, il arrive à affaiblir ton esprit. Il ne peut pas toucher ton esprit. Mais s'il arrive à toucher tes pensées, il arrive à affaiblir ta nature spirituelle. De conquérant, de celui qui domine, il t'amène à être dominé. Par la crainte, par la peur. Comment savoir si nous sommes dominés par l'esprit de crainte ? Non pas attaqués, puisque nous avons vu différentes attaques de cet esprit. Comment savoir si nous sommes dominés par cet esprit de crainte ? La Bible nous dit dans 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 19, « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu ne peux pas t'empêcher de faire quelque chose, tu es dominé. Si tu ne peux pas t'empêcher de faire quelque chose, l'esprit d'intimidation est dans ta vie. Certains ne peuvent pas se passer de manger un jour. Dieu les appelle à se consacrer parce qu'il y a un nouveau niveau dans leur vie. Vous savez que Dieu vous appelle à des nouveaux niveaux ? Vous pouvez avoir vécu 20 ans de vie chrétienne. Et un jour, Dieu t'appelle dans une nouvelle saison. Et si tu rates la saison, tu repasseras peut-être 20 ans dans une vie chrétienne normale. Il y a des saisons dans nos vies. Dieu veut parler à plusieurs personnes ici. Vous avez des saisons et il ne faut pas les rater. Il y a des saisons dans ta vie, tout est monotone, tout se passe bien, tu aimes ton Seigneur, tout va bien, etc. Mais Dieu t'appelle à quelque chose de plus, une saison nouvelle. Et il ne faut pas rater cette saison. Il y a des gens, Dieu les appelle à passer un temps dans le jeûne, puisqu'il est biblique, un temps à se consacrer, un temps à s'éloigner de toutes ces choses pourries du monde, qui n'apportent absolument rien, et ils ratent la saison. Ils perdent, ils passent à côté de ce que Dieu avait en vue pour eux. Pour entrer dans une nouvelle saison, il y a toujours une montagne. Tu regardes la montagne, elle te paraît importante, mais sache que derrière la montagne, il y a le pays promis, il y a ce que Dieu a prévu pour toi. Une nouvelle saison, ne passe pas à côté de la saison que Dieu veut pour toi. Et il y a des gens comme ça parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de manger un jour, parce que leur chair est tellement forte, ils sont tellement dominés, Dieu les appelle à jeûner, mais ils ne peuvent pas, ils sont dominés. D'autres personnes, ils ne peuvent pas s'arrêter de penser à la maladie. Ils voient leur futur malade, ils voient leur retraite malade, ils voient tout malade. Et ils pensent même que tout le monde est malade. Et ou alors ils pensent à l'échec. Ils se voient échouer. Dieu met un rêve dans leur esprit. Il est là, il est vivant. Mais l'esprit de crainte commence à venir sur eux. Mais pourquoi tu réussirais? Mais pour qui te prends-tu? Mais regarde, tu n'étais pas bon à l'école. Tu n'avais pas ceci, tu n'as pas cela. Regarde tes parents. Il n'y a aucun ministère dans ta vie, dans ta famille. Pourquoi toi tu réussirais? Regarde, tu n'as rien dans tes poches. Esprit de crainte, d'intimidation. Pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais quand Dieu appelle, il sait pourquoi il appelle, il pourvoira automatiquement et toujours. Parce que nous ne sommes pas en train d'accomplir notre ministère, nous sommes en train d'accomplir le ministère de Dieu, céleste, surnaturel, puissant, glorieux, celui qui se trouve en Jésus-Christ. C'est son ministère, ce sont ses dons. Et quand Dieu t'appelle, il t'équipe, il t'équipera, c'est lui qui t'équipera. Il le fera toujours parce qu'il est fidèle à sa parole. Ce qui marche dans cette peur de la maladie, cette peur de l'échec, ils voient leur futur s'arrêter d'une manière tragique, ils sont dominés. Ou certains, ils ont peur de pécher, constamment, ils ont peur de pécher. Oh, il ne faut pas que je repêche, oh, il ne faut pas que je tombe à nouveau, il ne faut pas... La crainte. La crainte. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. L'Esprit de Dieu n'a jamais peur. Jamais. Timothée avait laissé la crainte prendre la place dans sa vie. Il s'était laissé intimider. Et Paul dira même un jour à des gens qui devaient accueillir Timothée, ne le méprisez pas. Il dira aussi à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que lorsque les gens te méprisent, ça ouvre une porte à cet esprit de crainte et d'intimidation. Et lorsque les gens qui te méprisent, tu commences à accepter ce qu'ils font, alors te voilà manipulé, te voilà dominé. Il y a des gens comme ça dans certaines églises. Dieu les appelle à des dons. Dieu les appelle à des services, à faire quelque chose, mais ils sont manipulés par d'autres personnes. Manipulés. Les symptômes de l'esprit de crainte, ce sont le découragement, la confusion. L'esprit de crainte va t'amener toujours à regarder à toi. Toi, 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 toi. Je me souviens un jour, j'étais ici à l'église. Et j'ai commencé à avoir des pensées. Vous savez, des fois, je roule un peu vite. Et j'ai tellement ce désir d'être saint devant Dieu que cet esprit d'intimidation a commencé à venir sur moi. Très, très fort un dimanche matin. C'est un exemple parmi tellement d'autres qu'on peut vivre. Et en fait, pour t'amener à toi, pour t'amener à te dire tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Mais l'esprit de vie, il nous ressuscite. L'esprit de vie te montre quelque chose, mais l'esprit de vie ne t'écrase pas par cette chose. L'esprit de vie met en lumière ce qui ne va pas dans ta vie. Et alors, lorsqu'il te met en lumière cette chose-là, il te délivre automatiquement. Lorsque Dieu met en lumière quelque chose dans ta vie, ce ne sera pas avec ta force, tu ne réussiras pas. Mais l'esprit de crainte, il te mettra en lumière des choses dans ta vie pour que tu puisses essayer par toi-même de t'en sortir. Essayer d'en être délivré. Essayer par tous les moyens de réussir. C'est l'esprit de crainte. L'esprit de crainte est religieux. L'esprit de crainte force les choses. Il y a beaucoup de religions dans ce monde et des sectes. Et il y a des esprits de manipulation partout sur eux. Ils essaient de manipuler les gens. Timothée avait laissé cette crainte prendre la place dans sa vie. Et il faut dire qu'à cette époque, et dans ce pays, la persécution était partout. Jean se faisait massacrer, torturer. Et pourtant, l'apôtre lui disait, non, ne crains pas. Ne te laisse pas intimider par les adversaires. Oui, ils sont nombreux, mais ne te laisse pas intimider. L'apôtre Paul n'a pas mis en valeur la difficulté, mais il a mis en valeur l'Esprit de Christ, celui qui nous ressuscite. Quand tu es découragé, quand tu es confus, quand il y a quelque chose dans ta vie et tu es tourné sur toi, c'est l'esprit d'intimidation qui est là. Projet diabolique et oppression. La Bible nous montre que le royaume satanique, c'est un royaume organisé. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui vole dans les airs. Non, il est organisé. La Bible nous parle de principauté, de domination, des esprits méchants. Organisés. Il y a une organisation. Puisque les esprits sont des esprits, ils vivent. Ils font quelque chose, ils agissent tous les jours. Ils ont des agendas, ils ont des ordres qui leur sont donnés. Nous voyons très clairement ça dans les évangiles, par exemple. Les esprits méchants sont là et ils ont des ordres. Sache que quand tu es attaqué, ce n'est pas le diable qui t'attaque. Non, ce sont des démons, des esprits méchants. On va voir un peu qui ils sont tout à l'heure. Éphésiens 1:21 nous révèle donc qu'il y a une hiérarchie satanique organisée contre nous, contre l'Église. Dans Actes chapitre 23, Actes 23 et au verset 12, je suis réveillé avec ce verset et c'était vraiment une partie qui manquait à mon message. Actes 23, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés sous peine d'anathème. » Ils étaient même plus considérés comme des fils d'Abraham. « À ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. » Ça, c'est vraiment une image de ce que fait l'esprit de crainte, de ce que font les esprits méchants contre les chrétiens. L'apôtre Paul, il était là et il ne savait pas ce qui se passait. Lorsque les esprits méchants autour de toi sont en train de faire un plan contre ta vie, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe, parce qu'ils sont spirituels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à les tuer contre la chair et le sang, mais des esprits. Ils sont spirituels, tu ne vois pas ce qu'ils font. Si c'était ton voisin et qu'il était dans son jardin en train de créer une grosse catapulte contre ta maison, tu le verrais. Non, ce sont des esprits, tu ne le vois pas. Mais ils travaillent contre toi. Et c'est vraiment l'image des complots spirituels qui s'élèvent contre l'Église. Là, nous allons voir la différence entre la voix du diable et la voix de Dieu. Entre l'esprit de crainte et l'esprit de Dieu. Parce que certains, ils sont enseignés par rapport à l'esprit de crainte, mais ils ne savent pas faire la différence. Dieu nous préviendra d'un danger de trois façons. Il peut nous avertir d'une façon surnaturelle, par des songes, par des rêves, par des visions, par des prophéties. Dieu peut aussi nous avertir par la voix du Saint-Esprit dans notre esprit qui est autoritaire. Et Dieu peut aussi nous avertir par notre intuition. Cette intuition, c'est quelque chose qui va te révéler des choses qui viennent contre toi ou contre la vie des gens autour de toi. À la différence de ta conscience, qui t'avertit des choses qui te concernent et des choses que tu fais. Extrait du cours de l'IBEM, inscrivez-vous. Dans Actes chapitre 23, toujours et au verset 11, la Bible nous dit « La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul, donc c'était juste avant ce complot, et dit « Prends courage !» Voilà l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de foi, rappelez-vous. « Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Un songe. Lorsque Dieu nous parle, c'est toujours encourageant. Prends courage. Dieu peut prévenir de quelque chose qui va arriver, quelque chose de négatif, mais lorsqu'il te prévient, c'est toujours dans la paix. C'est toujours encourageant. Dieu peut te prévenir qu'un problème arrive. Il nous parle avec autorité, mais c'est toujours en vue de nous éviter ce problème qui arrive ou de te dire que dans ce problème, il te donnera la puissance de passer. Et tu en sortiras victorieux. Nous pouvons vivre des difficultés, mais Dieu nous donnera le moyen d'en sortir. Si le diable vient te parler pendant la nuit, sache que ce n'est pas Dieu l'auteur de ce rêve. Dieu n'utilise jamais le diable pour nous parler. Si tu vois le diable ou un esprit méchant dans ton rêve, sache que ce n'est pas Dieu. Tu n'as rien à prendre de ce qu'il t'a dit. Tu le rejettes directement. Ne commence pas à méditer sur ce qu'il t'a dit. Oh, mais comment? Ah oui, mais ceci. Et... Non. Tu parles. Tu agis dans ton autorité. Tu te réveilles et tu prends autorité. Un jour, j'étais en France et on était en train d'exercer le ministère dans une église et on a dormi chez des gens. Et dans la nuit, il y a un esprit méchant réellement qui nous a visités. Et cet esprit méchant, c'était un esprit de crainte, un esprit de peur. Il y a eu une manifestation qui s'est passée. Et quand tu es là dans la nuit, c'est pas pareil que quand tu es dans le jour. Esprit de crainte. Et automatiquement, l'esprit de crainte, il vient avec des oppressions, nous en avions parlé. Ces oppressions spirituelles qui sont là sur ta vie et qui t'amènent par terre, ce sont des forces spirituelles, étranges, bizarres, qui t'amènent dans... Tu es mal à l'aise, tu ne te sens pas bien, des forces qui peuvent être plus ou moins fortes. L'esprit de crainte, il peut parfois venir avec ces forces-là. Et là, j'ai commencé à prier en langue, tout simplement. Et on s'est rendormi, et à nouveau, une attaque. Et là, Dieu m'a surnaturellement dirigé, il y avait une Bible à côté. J'ai ouvert la Bible et je suis tombé dans un passage d'Ésaïe. Et ce passage d'Ésaïe était la clé. Je l'ai simplement déclaré. Ce passage déclarait que Dieu allait éloigner l'homme fort. Il te chercherait, il ne te trouverait même plus. Et automatiquement, c'est parti. Le diable vient avec un esprit de crainte. Et si tu ne domines pas par la parole de Dieu, tu resteras dans la crainte. Tu marcheras esclave tous les jours de ta vie. Il y a une femme qui venait dans cette église. Imaginez, cette femme, elle vit dans le noir tous les jours de sa vie. Cette femme se déplace de sa cuisine à son salon, de son salon à sa chambre, par terre. C'est l'esprit de crainte. C'est l'esprit d'intimidation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de foi. Prophétie, songe, vision sont des moyens par lesquels Dieu peut passer pour te parler. Dieu te parle dans la paix, Dieu te parle dans l'amour. Dieu te parle en te montrant ton futur glorieux. Et même s'il y a des difficultés dans ce futur glorieux, il te montre que la gloire va prévaloir. La voix du Saint-Esprit, c'est une deuxième façon par laquelle Dieu peut nous parler. Donc il peut nous avertir de choses que des gens veulent faire contre nous. Pour qu'une fois que cette chose soit révélée, nous ne puissions pas dire « Dieu n'était pas là ». Des fois, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie. Et Dieu nous avertit. Je connais quelqu'un comme ça, Dieu lui a dit, il était dans une certaine situation et Dieu lui dit « Ta femme est en train de te tromper ». Pourquoi Dieu a fait ça? Oui, c'était Dieu. Parce que c'était pas le diable, c'était en train de se passer. Dieu lui a montré ça pour lui dire que je connais la situation et sache que je suis au contrôle, alors laisse-moi faire. Et ça s'est avéré vrai. La personne a demandé et c'était ça. Dieu est là pour nous avertir parce qu'il nous aime. Il peut nous montrer un problème, mais c'est pour nous montrer le moyen d'en sortir. Quand le diable te montre un problème, c'est pour te montrer que tu vas y rester. L'esprit de Dieu, en sortir. L'esprit de crainte, y rester. Notre intuition, c'est le troisième moyen par lequel Dieu peut nous prévenir. Toujours dans Actes chapitre 23 au verset 19, il y a un petit enfant qui était là. Et il a entendu le complot qui s'élevait contre l'apôtre. Le tribun le prit par la main et se retirant à l'écart s'informa « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit, les Juifs se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme s'ils devaient s'informer plus exactement de son cas. N'écoute pas leur demande, car plus de 40 d'entre eux préparent un guet-apens contre lui et se sont engagés sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent que ton consentement. Cet enfant, c'est vraiment l'image de l'intuition. Il est là et il avertit. L'intuition informe d'une situation qui vient contre toi. C'est l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est dans ton esprit, une fonction de ton esprit. Alors, quand vous allez faire les bêmes, vous allez être béni. Pourvu que vous mettiez en pratique ce que vous apprenez. Ce petit garçon, c'est donc l'image de l'intuition. Elle nous prévient. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 11. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qui connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ton intuition est reliée directement au Saint-Esprit. Qui connaît l'Esprit de Dieu? Qui connaît Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Ton esprit connecté à l'Esprit de Dieu connaît des choses que tu ne connais pas. Il y a des connaissances intuitives, des choses, des révélations qui sont dans ton esprit, des avertissements de la part de Dieu que Dieu va te dire. Aucun accident dramatique n'arrive sans que Dieu t'ait prévenu. Je parle ici d'un enfant de Dieu. Dieu nous montrera le problème, mais il nous montre le moyen d'en sortir. Maintenant, quelques règles pour savoir si c'est Dieu qui nous parle. On doit se souvenir que le Saint-Esprit, qu'il se manifeste par notre intuition, qu'il se manifeste par un songe, une vision, une prophétie qu'on reçoit, cette prophétie deviendra d'abord confirmer ce que nous avons reçu, ou alors elle sera en accord directement avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont et doivent être en accord parfait. Il n'est rien de ce que tu dois recevoir qui est contraire à ce que la parole de Dieu te dit. À chaque fois que le Saint-Esprit te parle, sache que c'est l'Esprit de la parole. C'est l'Esprit de la parole de Dieu. Cette voix que tu entends, même elle peut être audible, mais si elle est contraire à ce que dit la parole de Dieu, refuse-la, rejette-la. Ça crée tellement de sectes et de choses bizarres. Tout doit être éprouvé par la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:21, éprouvez toutes choses. Examinez, retenez ce qui est bon et débarrassez-vous de ce qui est mauvais. Certains sont tout le temps en train de dire, ils entendent une voix, ils ont des songes, ils ont des révélations, etc. La Bible nous dit d'éprouver. Là, ils aiment tellement les rêves qu'ils prennent tous les rêves qui viennent. Et ça les amène dans la confusion, petit à petit, rappelez-vous, là, c'est comme la séduction. La séduction, elle agit tout doucement. Un collègue de travail te regarde. Oh, tu es tellement belle aujourd'hui. Le lendemain, il te regarde à nouveau et il te donne une autre information. Et il te donne une autre information et les jours passent, et les jours passent. Et c'est doucement, la séduction. Et ça t'amène là où tu ne veux pas aller. Si tu n'agis pas dessus. Esprit de manipulation, esprit d'intimidation. Les choses qui nous amènent là où on ne veut pas aller. Dieu ne nous force jamais. Les démons, ils possèdent les gens. Ils les contrôlent. L'Esprit de Dieu ne possède personne. Et l'Esprit de Dieu ne contrôle personne. L'Esprit de Dieu dirige. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. L'Esprit ne conduit pas. On fait cette remarque à l'IBM parce qu'elle est importante. L'Esprit, il n'est pas là, tu es le passager et il conduit ta vie. Non. L'Esprit te dirige, tu es au volant. Et le Saint-Esprit est là avec une carte routière et te dit, va ici, fais attention ici. L'Esprit de Dieu est comme ça. Comment pouvons-nous juger de ces choses? On peut voir si une voix, une expérience qu'on peut faire vient réellement de Dieu, en, bien sûr, la jugeant dans la parole de Dieu premièrement, et ensuite par le témoignage intérieur. Qu'est-ce que te dit ton esprit? Usez de discernement spirituel. L'homme spirituel juge tout. Dieu nous dirige par la paix, il nous prévient d'un danger. Qu'est-ce qui nous aide à entendre Dieu si Dieu vient nous prévenir d'un danger? Acte 23 et au verset 1. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour, en toute bonne conscience. Ce qui vous aidera à entendre la voix de celui qui a dit, « Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. » C'est de marcher en toute bonne conscience dans ce monde. Si vous demeurez dans le péché, il vous sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Si vous demeurez dans ce péché et dans l'ignorance, il sera difficile d'entendre sa voix. Voilà pourquoi nous avons besoin de grandir et de marcher dans la parole de Dieu et la sainteté. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit saint. Ce n'est pas parce que Dieu nous veut du mal. Non, la sainteté nous approche de lui. La sainteté nous fait du bien. La sainteté nous bénit. La sainteté nous écarte de la malédiction et de choses difficiles qui voudraient venir contre nos vies. Comment agir lorsque Dieu nous parle? Il faut juste faire ce qu'il nous dit. C'est drôle parce que j'avais déjà prévu de parler de ça ce matin. Et on était dans la voiture et il y avait Eden qui parlait avec une amie. Et cette amie lui dit, « Ah, je me souviens de Martine. » Martine, je veux parler de toi. Tu as peur, hein? Ton cœur palpite. Ne te laisse pas voir. La crainte ne vient pas de Dieu. Et un jour, Dieu a dit à Martine un soir, d'aller prendre un ordinateur qui était dans sa voiture. C'est bien ça? Un portable. Et en fait, elle a eu la pensée comme ça, elle n'est pas allée. Et tu te l'es fait voler, c'est ça? Ou c'est peut-être pas toi? C'est ça, ça fait longtemps, voilà. Dieu vient nous prévenir. Il y a un homme comme ça, c'est un missionnaire. Dieu l'a appelé à aller dans une autre ville, loin de chez lui. Il allait avec une caravane, avec toutes sortes de choses, un camion. Et il y avait toute sa maison qui était dedans. Et le soir, il était vraiment très fatigué, il était en train de conduire. Et Dieu lui dit de bien fermer tout, de vérifier. Il ne le fait pas. Le lendemain, il prend autorité, il dit non, ça ne vient pas de Dieu. Le lendemain, il se réveille, il n'y avait plus rien. Il s'était tout fait voler. Dieu vient te prévenir. Dieu nous prévient. Il y a deux semaines, notre frère Stéphane, il est là. Il était dans une certaine ville. Et il y avait là sa tente qu'il avait montée pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Et là, le Seigneur va lui dire, enlève tout de suite ta tente. Et il y avait deux autres tentes, je crois, qui étaient là, qui ne lui appartenaient pas. Il est là, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend autorité. Non, non, ça ne vient pas de Dieu, etc. Il ne se passera rien, ma tente va rester tranquille. Quelques minutes après, je crois à peine 10 minutes, il y a eu une grosse tempête et la tente arrachée. Et c'est du côté de l'argent. Dieu vient nous prévenir. Et nous avons vu à l'IBEM que lorsque Dieu vient nous prévenir, ça ne sert à rien de prendre autorité. Quand le diable te parle, tu prends autorité contre lui et tu lui dis de se taire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu obéis tout simplement et le problème sera évité et écarté. La Bible nous dit dans Actes 9, 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Quand il y a un complot qui vient contre toi, tu ne restes pas là tranquillement. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 23? Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Tu peux être dans la ville et persécuté et dire au nom de Jésus, plus aucune persécution ne viendra. Jésus dit, fuyez. Si nous obéissons lorsque Dieu nous prévient, il nous écarte. Dans Actes 23, au verset 13, nous avons lu, ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40 personnes. Au verset 23, ensuite il appela deux des centeniers et dit, tenez prêt 200 soldats, 70 cavaliers, 200 lanciers pour aller dès la troisième heure de la nuit jusqu'à Césarée. Au verset 31, les soldats, selon l'ordre reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le complot, ils étaient 40. La solution, ils étaient 470. Quand Dieu vient te parler d'une situation, Dieu te donne le moyen d'en sortir et Dieu est toujours plus fort que le diable. Toujours. Les gens disent, oui, mais Dieu m'a parlé, alors je vais prendre autorité, cela suffira. Non. Il faut faire attention. Maintenant, comment agir lorsque Satan nous parle? Comment agir quand l'esprit de crainte vient sur nous? Il faut le confronter. Quand la crainte commence à venir sur toi, quand cet esprit d'intimidation, cet esprit qui t'amène vers le bas, cet esprit d'échec, cet esprit de maladie vient dans ta vie, tu le confrontes et tu marches dans ton autorité. Psaume 27, 3, David dit, si une armée, imaginez, une armée se campait contre moi, moi, je suis un. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, une guerre, moi, un. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui parle. L'esprit de crainte dit, si un homme s'élève contre moi, j'aurai peur et je tremblerai. L'Esprit de Dieu dit, si une guerre, si une armée entière s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. La crainte n'a pas été créée pour l'être humain. La crainte, elle rend l'homme esclave. Esclave. La crainte rabaisse les gens. La crainte est satanique, elle est méchante, elle est cruelle, elle est démoniaque, elle est terrible. L'Esprit de Dieu est fort. Fort et puissant. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de sagesse. Il te parlera afin que tu agisses dans la sagesse. Et toutes sortes de choses seront évitées. Et au sein de l'épreuve, il te donnera la puissance. Maintenant, ce que Satan a toujours voulu vous cacher. Oh, pasteur Joël, il me manque de temps. Ce que Satan a toujours voulu vous cacher. Premièrement, ce que Satan ne veut pas que vous sachiez, c'est que la plénitude vous appartient. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 1, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Quelle est cette grâce? La grâce de Dieu, c'est cette faveur que tu ne mérites pas. Ça ne s'agit pas de tes œuvres, ça ne s'agit pas de ta sanctification, non. C'est la grâce de Dieu, elle est résidente, imméritée, elle est là dans ta vie. Jean 1,16 nous dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La plénitude de Dieu t'appartient. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Il dit, tout est à vous. Parce que Dieu te montre quelque chose et que l'esprit de crainte vient te montrer autre chose, tu dis, non, tout est à moi. Ça m'appartient. Et je te domine au nom de Jésus. Nous avons reçu la plénitude. Ça veut dire quoi? Nous sommes pleins. Nous sommes complets. Il n'y a plus personne qui peut entrer, on est complet. Nous sommes complets en lui. Nous sommes parfaits en lui. Nous sommes remplis de lui. Il n'y a plus de place pour un esprit mauvais. Il n'y a plus de place pour rien qui vient des ténèbres. Je suis complet, rempli de la présence de Dieu. Il remplira tout en tous. Il remplit mon esprit. La Bible nous montre, il est venu tabernacler. Ça veut dire quoi? Prendre toute la place dans ton esprit. Il n'y a pas un grain de poussière qui peut entrer dans ton esprit. Il habite dans ton esprit. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit des gens spirituels. Ce qu'il ne veut pas que vous sachiez, deuxièmement, c'est que vous avez le pouvoir et l'autorité. Elles vous appartiennent. Dans Éphésiens 2:6, nous lisons « Il nous a ressuscités ensemble. » Oui, tu étais là aussi. « Et il nous a fait asseoir ensemble. » dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, de sa plénitude, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon corps est là en ce moment en train de vous parler, ma bouche, mais elle ne fait que qu'exprimer ce que mon esprit, assis dans les lieux célestes, me dicte. Je suis assis en ce moment, même dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Alléluia! Je suis rempli d'un esprit de joie. Parce que je suis assis avec le roi de gloire. Et je suis béni de toute bénédiction. Rien ne peut me nuire. Oh, tu peux être assis dans ton lit ou allongé et être mal. Mais quand tu réalises par la révélation de l'esprit de Dieu qui est en toi, que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, tu domines sur la situation. Tu domines parce que Dieu t'a appelé. Il dit, faisons l'homme et qu'il soit dans la crainte. Non, Dieu dit, faisons l'homme et qu'il domine. Dieu t'a appelé à dominer en tant qu'église, en tant qu'individu, en tant qu'ambassadeur de Christ. C'est ton appel ultime de dominer. Dominer en annonçant l'évangile. Dominer en guérissant les malades. Dominer en ressuscitant les morts. Dominer en accomplissant notre appel jusqu'au bout. Dominer contre le péché. Dominer. Dieu t'appelle à dominer. C'est ton appel. Éphésiens 1:20 nous dit, il a mis en action, de quoi? Sa grâce, sa puissance envers nous, dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous regardons Jésus-Christ. Il est assis dans les lieux célestes. Et que nous dit la suite? Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, ça nous parle du royaume des ténèbres. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer, ça nous parle de tout homme qui voudrait venir contre nous. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est notre siècle, ça, c'est le siècle à venir. Ah, c'était pas pour il y a 2000 ans, c'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Il a tout mis sous ses pieds. Oh, est-ce que je suis sous les pieds de Christ? Est-ce que Christ est en train de marcher sur moi? Est-ce qu'il va attendre que je passe? Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je suis l'Église, le corps de Christ. Non, je ne suis pas sous les pieds de Christ. Je suis le corps de Christ, je suis l'Église. Je suis l'Église. Où sont les dominations? Où sont les autorités? Où sont les ténèbres? En bas, sous mes pieds. Je suis l'Église. Je suis l'Église et je domine, j'écrase. C'est mon appel. Écraser, dominer, broyer les montagnes. Jésus dit dans Luc 10:19, voici je vous ai donné le pouvoir, ou encore l'autorité, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, oh, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tout vous fera mal, vous serez triste et malheureux. Vous direz, Seigneur, où es-tu dans ma situation? Je ne sais pas quoi faire, viens m'aider! Non. Vous n'êtes pas très réactif. J'aurais dû porter un autre complet. Rien ne pourra vous nuire! Oh, si j'étais en Afrique, je le sais, si j'étais en Afrique, j'étais au Congo il y a un mois, j'ai parlé de l'autorité en Christ. Quand je disais, rien ne pourra vous nuire, Alléluia! Oh, oh! Ah, ils s'en remettent de la parole de Dieu. Ils étaient, oui, ils disaient comme les premiers chrétiens, Amen, quand ils entendaient la parole de Dieu. Pour dire à leur situation, pour dire à leur corps malade et souffrant, pour dire aux esprits méchants qui venaient contre eux, je suis d'accord avec ça, c'est mon héritage. Je ne resterai pas la bouche fermée. Je marche dans mon autorité. Serpent, scorpion, qui voulait ma mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire de Dieu. Et je les raconterai à mes enfants. Je raconterai la gloire de Dieu à toute personne que je croise. Je raconterai la gloire de Dieu et les bienfaits de mon Dieu à toute personne que je rencontre. Je dirai à même à mes situations. Des fois, ma fille me regarde, ou elle s'est habituée, mais les gens parfois qui viennent, y avaient félicité hier, et me regardaient prier en langue, un peu surpris, comme si j'étais un peu fou. Je domine. Tu parles à tes situations. Tu parles à ta montagne. Toute personne que tu croiseras, tu es transporteur d'un message. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux un beau mariage, tu veux de l'argent, tu veux un petit câlin de Dieu. Domine! Domine! Marche sur la parole, il est déjà mort pour toi. Oh, je sens que vous devenez africain. Gloire à Dieu! Parce qu'en fait, j'aimerais vous dire une chose. C'est que l'Esprit de Dieu n'appartient pas aux Africains. L'Esprit de Dieu n'appartient pas aux Québécois, ni même aux Français. L'Esprit de Dieu appartient à celui qui a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il crie « Abba, Père !» C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il rendra la vie à nos corps malades. Lorsqu'on se laisse dominer par la peur, qu'on a des pensées contraires à la parole de Dieu, des pensées que nous savons être mauvaises, et que nous les acceptons, nous anesthésions ce pouvoir, nous anesthésions cette autorité que Dieu nous a donnée. De celui qui domine, nous passons au stade du dominé. Nous marchons courbés sous la puissance de l'ennemi. Nous disons, Seigneur, où es-tu? Alors que Dieu a dit, je serai tous les jours avec vous. Je serai en vous jusqu'à la fin des temps. Mais nous disons exactement ce que l'esprit de crainte veut qu'on dise. Et on est en train de parler à Dieu les paroles du diable. Où es-tu, Seigneur? Comment Dieu agira? Timothée a laissé la timidité l'emporter, la crainte sur lui dans ses pensées. Jésus ira même jusqu'à dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » La crainte n'est pas pour nous. Craindre Dieu, oui, ça veut dire honorer Dieu, respecter Dieu. Savoir que le regard de Dieu est sur ma vie et je ne peux pas faire n'importe quoi parce que Dieu même, il veut mon bien. Il veut m'écarter. Cette crainte, elle nous rend improductifs. Arrêtez de vous demander ce que vont penser les autres. Agissez. Agissez dans l'ordre divin. Puisqu'il y a aussi des gens dans des églises, et ils disent, moi je suis prophète, moi j'ai un don, et ainsi parle l'Éternel, je coupe le prédicateur et je dis, ainsi parle l'Éternel. Oh, c'est arrivé au pasteur Olivier un jour. Dans son église. Bon, il l'a pas coupé en train de prêcher, mais c'était juste avant. Et il dit, tu es Pharaon, Pharaon! Et tu empêches mon peuple de partir. Il y a des gens, vous savez, esprit d'intimidation. Ils sont là autour de vous, dans votre église, dans votre famille, et ils vous manipulent. Oh, tu es tellement beau, oh, tu es tellement fort. Et quand tu acceptes ça, tu es en train d'accepter des compliments de l'homme, de la chair. Et ça t'amène par terre, parce que l'orgueil, parce que la gloire ne te convient pas. La gloire convient à Dieu. Ne manipulez pas les gens. Agissez en respectant l'ordre de Dieu. Soit vous allez vous soumettre à l'intimidation, soit vous allez y résister et dominer. Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez, c'est que la force vous appartient. La force est différente de l'autorité. Vous pouvez voir une policière, elle est là dans sa belle voiture, et lorsqu'elle sort, vous n'avez pas vraiment très peur. Elle a l'autorité. Par contre, si c'est Goliath qui sort, il est possible que la crainte essaie de venir en vous. S'il peut porter votre voiture comme ça, il a la force. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, c'est sa force. Ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu. Notre responsabilité, c'est de nous fortifier. C'est notre rôle et Dieu ne le fera jamais pour toi. Parfois, je suis surpris de certaines prières, vraiment. Et j'en demande tellement de choses à Dieu qu'il a déjà faites. Qu'est-ce que Dieu disait à Josué ? Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. Non, fortifiez-vous. Je vous ai donné ma parole. Psaume 27, 1, l'Éternel est mon salut, encore ma force, de qui aurais-je peur? Ou encore, je puis tout par Christ qui me rend fort, il me fortifie. La force, nous ne combattons pas avec notre force, nous combattons avec la force de Dieu. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la force, la puissance d'agir. Nous sommes dans cette position d'autorité, la force nous appartient. C'est la puissance de notre Dieu. Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez, c'est que les armes vous appartiennent. Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » L'une des ruses du diable est de te faire croire que tes armes ne vont pas fonctionner contre lui. Oui, mais toi, tu sais, tu n'as pas assez la foi. Oui, mais toi, tu n'as pas ressuscité un mort comme ce ministère qui est en train de prêcher l'Évangile. Oui, mais toi, tu ne parles pas aussi bien que cette personne qui dit avoir la foi. Revêtez-vous de toutes les armes. Le diable est rusé. Voilà pourquoi l'apôtre dit que nous n'avons pas à lutter de la même façon que nous le ferions avec les hommes, c'est-à-dire la chair et le sang. Non, nous agissons d'une manière différente. L'apôtre Paul dit « Je frappe, mais pas en l'air. » Nous luttons contre des esprits, l'esprit de crainte, l'esprit de timidité, l'esprit d'intimidation. Puisqu'ils sont spirituels, même s'ils sont vaincus, vous ne le verrez pas. Avec vos yeux. Vous verrez qu'effectivement, il y a une présence qui est partie, la paix l'a remplacée. Ils auront se reposer, mais vous, vous vous direz, mais peut-être ils sont en train de, ils sont là encore, ils vont m'attaquer du jour au lendemain. Ils vont se reposer, et on va voir pourquoi. Et ils vont à nouveau essayer de vous dominer, comme Jésus, dans le désert. Vos armes sont suffisantes, elles vous appartiennent. Les armes du croyant vous appartiennent. Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle est suffisante dans ta situation. Il ne s'agit pas de ta force, il s'agit de faire confiance en la parole de Dieu. Il s'agit de faire confiance dans la force divine. Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez, c'est que lorsque vous lui résistez, et ça c'est la grande révélation, il souffre. Dieu m'a parlé dernièrement à ce propos. Lorsque vous résistez au diable, il souffre. Les croyants ont besoin de savoir cela. Parce que, puisque c'est spirituel, on ne réalise pas que lorsqu'on use de nos armes, nous provoquons des blessures réelles à notre ennemi. Jésus, sachant qu'il avait la plénitude, il avait l'autorité, il avait la force dont on a parlé, c'est la même chose qui nous appartient, a utilisé les armes de Dieu contre des mauvais esprits. Allons dans Marc au chapitre 5. Ah, ce que le diable ne veut pas que vous sachiez, c'est que les esprits sont réellement vivants. Il veut que vous pensiez que non, c'est dans un fin fond du village là-bas où il y a un sorcier bizarre. Il n'y a que lui qui a un mauvais esprit. Non, il y en a partout. Partout où vous allez. Sauf dans ma maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu nous protège. Marc au chapitre 5. Aussitôt que Jésus eut débarqué un homme sortant, au verset 2, des tombeaux et possédé d'un esprit impur, vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, imaginez. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ça nous parle de force, d'autorité. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui parla ?» Ce n'est pas l'homme. Les esprits méchants en lui ont usé la voix de cet homme. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. » Jésus est en train de dire, à distance. Il a parlé à distance. Il a vu cet homme de loin. Il est en train de manasser l'esprit impur. L'esprit impur a commencé, puisque cet homme était possédé, on le voit au niveau de son cas ici, il se meurtrissait, c'était terrible. Il était complètement possédé, corps, âme et esprit. Il a couru vers Jésus. Et s'il te plaît, ne nous tourmente pas. Pourquoi ? Quand Jésus parlait l'autorité, quand Jésus parlait la parole, ça amenait un tourment chez les mauvais esprits. Que veut dire le terme tourmenté ici, bibliquement ? Ce même terme qu'on retrouve plusieurs dizaines de fois dans la parole de Dieu. Mettre à l'épreuve par une pierre de touche, une pierre siliceuse, utilisée pour la vérification de la pureté ou de l'argent par examen d'une rayure par cette pierre. Ça veut dire aussi tourmenter, interroger en soumettant à la torture. Ça veut dire encore torturer, tourmenter, affliger, ou encore de ceux qui en mer naviguent avec le vent en face. Quand tu prends autorité contre l'esprit de crainte dans ta vie, tu es en train de le tourmenter. Ce sont des esprits méchants, ce n'est pas des choses comme ça. Ce sont des esprits, on pourrait dire des personnes, des êtres spirituels qui sont là et qui viennent dans ta vie. Mais quand tu parles la parole de Dieu, voilà qu'ils disent « ne nous tourmente pas ». Le diable ne veut pas que l'Église sache que lorsque l'Église parle la parole de Dieu, ça lui fait mal. Sinon, pourquoi le diable ne resterait pas tous les jours avec nous ? Lorsque le diable est venu voir Jésus une fois, il est allé deux fois, il est allé trois fois, vous croyez qu'il n'a pas souffert ? Oui, il a souffert parce que la parole de Dieu est une épée. Il y a de véritables souffrances qui lui sont infligées. Le même terme est utilisé dans Matthieu 8:6. La même histoire, Matthieu 8:6. Non, c'est une autre histoire, dans Matthieu 8:6. Comme Jésus était entré dans Capernaum, le même terme ici, tourmenté, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » C'est le même terme ici. Ce que les esprits méchants ont dit, « S'il te plaît, ne nous tourmente pas. » C'est exactement le même terme ici de cet homme paralysé et qui était en proie à toutes sortes de douleurs. Ce que Satan veut cacher aux croyants, c'est que lorsqu'ils brandissent l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cela leur fait terriblement mal. Cela les fait souffrir. Dans Matthieu 8, 29, Matthieu précise que ce qu'ont dit les mauvais esprits lorsque Jésus prenait autorité sur eux, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il précise que cet homme, les esprits qui étaient en lui, ont dit nous tourmenter avant le temps. Pourquoi le temps ? Ils savent ce qui les attend. Et la Bible dit « Ils tremblent ». Pourquoi nous parlons de cela ? Pourquoi nous définissons ce qui se passe ? C'est parce que bien sûr, si tu parles la parole de Dieu et que tu sais que ton ennemi, il souffre, il va partir. Si tu comprends réellement ce qui se passe dans le monde spirituel, et tu sais que si je parle la parole de Dieu, bien sûr, il est en train de souffrir réellement. Il souffre. Il essaie de me faire souffrir, mais il souffre. Il essaie de me faire souffrir, mais il souffre. Et au bout d'un moment, qui va gagner ? L'esprit de celui qui est en nous est beaucoup plus fort, plus puissant que celui qui vit dans le monde. Ils savent ce qui les attend. Je vais bientôt terminer. Apocalypse 20:10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés. » Le même verbe. Le même verbe, tourmenté. Exactement. C'est baza niso. « Jour et nuit au siècle des siècles. » Voilà ce qui attend le diable et ses serviteurs. Et voilà pourquoi ils tremblent. Ils croient. Tu crois en Dieu, oui. Et tu fais bien. Les démons croient et ils tremblent. Quand tu parles la parole de Dieu, sache qu'ils tremblent, ils ont peur. Voilà pourquoi le diable, lorsqu'il s'attaque à un enfant de Dieu qui connaît son autorité, il va s'y prendre à deux fois. Il va bien, bien réfléchir. Parce que oui, ça provoque réellement des souffrances, je vous le dis. De la même manière, si quelqu'un arrive devant toi et te met un gros coup de poing, ça te provoque une souffrance, mais de la même manière, exactement pareil. Quand tu parles la parole de Dieu, tu es en train de donner un coup d'épée à des esprits méchants. Voilà pourquoi ils souffrent et voilà pourquoi ils perdent des corps. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Ce qu'il ne veut pas que vous sachiez, c'est qu'il a plus peur que vous. À cause de sa faim, il tremble. Jacques 2:19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que vous savez qu'un jour, les démons ont prié Jésus ? Vous ne saviez pas que les démons priaient Jésus ? C'est les mêmes démons dont nous avons parlé tout à l'heure. La Bible nous dit, dans Matthieu 8, 31, les démons priaient Jésus. disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Parce qu'il ne mérite pas plus qu'un pourceau. Pasteur Joël dit, « Amen. Amen, je n'aime pas le porc. » Ils ont prié Jésus. Pourquoi ? Parce que ce sont des êtres spirituels faibles et misérables. Le diable et les démons, écoutez-moi bien, vivent dans la peur. C'est leur nature. Si je vous dis de penser au diable maintenant, peut-être une majorité d'entre vous, vous allez penser à un bonhomme rouge avec une espèce de queue et une fourche et des cornes. D'autres, vous allez voir un personnage hideux, méchant, terrible. D'autres vont voir un homme fort et ils commencent déjà à avoir des frissons en repensant au cauchemar qu'ils ont fait la nuit dernière. Le diable a communiqué un message. La Bible nous parle du cours de ce siècle. La Bible nous parle de la mode. La Bible nous montre que le diable, il transmet des messages aussi. Il parle, il a des émissaires, il les envoie. Le diable utilise, la Bible dit, les systèmes de ce monde. Il utilise les médias. Quel est un média qui est très puissant aujourd'hui ? Le cinéma. Je suis énervé. Le peu de fois où je vais au cinéma, avec ma petite fille pour regarder un bon dessin animé, où il n'y a pas de gros mots, où tout se passe bien, où tout le monde est merveilleux, parce que oui, je préfère que tout le monde soit merveilleux, là où j'emmène ma fille Eden, puisque c'est pour elle le jardin d'Eden. Pourquoi je voudrais la mettre dans un monde où tout fait peur, où tout va mal ? Non, je veux la faire vivre dans un monde où tout est merveilleux. Gloire à Dieu. Dieu lui montrera comment sortir de l'épreuve, au temps où l'épreuve l'attaquera. Le diable et les démons vivent dans la peur. Et alors que tu es là, tu entres dans le cinéma, tu vois tellement de films. Tu vois le diable partout. Tu pourrais presque voir, le diable a créé ce film. Satanas. Le diable a créé ce film. Tu vois une petite fille là, trop bizarre. Le diable a créé ce film, tu vois des monstres là. Et les enfants de Dieu regardent ça, mais... Ah, n'allez pas vous plaindre après. Oui, mais tu sais, ça me fait pas peur. Oui, ça te fait pas peur, mais tu es en train d'accepter des esprits de crainte et d'intimidation. Tu es en train d'accepter des choses qui viennent du royaume des ténèbres pour te dominer et dominer ta vie. Et les gens laissent regarder leurs enfants n'importe quoi. N'importe quoi. Et après, ils voient leurs enfants qui grandissent comme les stars qu'ils regardent. Au début, elles sont gentilles, elles sont toutes douces. Il y en a eu tellement. Et elle est là... Elles ont 8 ans, excusez-moi, c'est une parenthèse. La petite fille, elle a 8 ans et votre fille la regarde. Il y a quelque chose qui n'est pas sain déjà, vous voyez dans cette fille. Elle est là à la télévision en train de commencer à chanter. Et tu vois que la première fois, elle est arrivée dans cette émission, elle était habillée comme n'importe tout le monde, mais elle commence à être connue. La deuxième fois, tu la vois, elle a 8 ans ou 10 ans ou 12 ans, mais bizarrement, elle commence à s'habiller un peu bizarrement. Et là, tu laisses ta petite fille regarder ça. Et ta petite fille grandit. Mais cette fille grandit aussi. Et ta petite fille, elle aime cette fille, parce qu'elle est en train de s'identifier à elle. Cette petite fille grandit, elle a 10 ans, elle a 12 ans. Là, cette même petite fille se retrouve dans une série télévisée, elle aime cette petite fille. Cette petite fille a grandi, elle a grandi aussi. Et là, elle est en train de flirter, elle embrasse des garçons, elle couche avec des garçons. Qu'est-ce que va faire ta petite fille ? Oh Seigneur, je t'en prie, regarde ma fille, elle va dans le monde. Et Dieu te dit, mais tu lui as laissé regarder la pourriture. Cette petite fille grandit encore. La voilà à 14 ans, la voilà à 16 ans. Et là, tu laisses ta petite fille acheter les magazines People et toutes sortes de choses ridicules. Ah, si le monde ne vivait qu'avec des gens comme moi, tellement de sociétés qui n'existeraient pas. Vraiment. Et là, elle achète ces magazines. Et là, elle voit, ah oui, d'accord, elle s'est fait des tatouages. Oh, bon, bah, je vais faire des tatouages. Oh, elle s'est dessinée une tête de mort. Oh, je vais dessiner une tête de mort. Oh, elle commence à prendre de la drogue. Ah, bah ouais, ce serait peut-être bien d'essayer de la drogue. Le siècle présent. Et les gens ne réalisent pas, vraiment. Et les gens manquent d'intelligence parfois. Ils manquent d'intelligence. Je connaissais comme ça un couple en France. Leurs enfants, ils regardaient un peu n'importe quoi. Ils regardaient une série télévisée à l'eau de rose. Vous savez, les séries adolescentes. Ils disaient, oh, c'est pas très grave. Oui, mais le problème, c'est que 3 ans plus tard, lorsque cette personne a grandi, la voilà avec un homme du monde en train de faire n'importe quoi. Les gens s'identifient. Et cet esprit d'intimidation, cet esprit de manipulation, cet esprit de contrôle, il utilise tout. Tout ce qu'il peut. Il passe au travers des médias. Le diable a perdu toute sa beauté, mais il inspire les cinéastes. Il inspire toutes sortes de gens à le représenter comme un être terrible. Les gens n'auraient pas peur du diable si on avait montré que le diable, il faisait 5 cm. Si de toujours, on vous avait dit que le diable faisait 5 cm, vous n'auriez pas peur du diable. Voilà pourquoi Eden, lorsqu'on parle du diable, elle dit, mais il est rien du tout, il est ridicule, il est plus petit qu'une mouche. Parce qu'on lui a montré quelque chose à son sujet. Je ne dis pas que le diable ne peut pas frapper, je dis que Dieu l'a écrasé. En tout cas, Dieu l'a rendu impuissant. Il l'écrasa totalement bientôt. Et il a peur. Sa nature, elle a peur. Elle est transmise à l'homme par le péché. L'homme n'aurait jamais dû avoir peur. Adam a péché en suivant les voies du diable. La première parole qu'il dit, écoutez, j'ai eu peur et je me suis caché. La peur est entrée dans le monde par le péché. La peur n'est pas le lot, n'est pas ce que Dieu désire pour les enfants de Dieu. Lorsque le diable est démasqué, lorsque tu comprends tout ce qu'il ne voulait pas te dire, tout ce qu'il ne voulait pas que tu saches, il ne peut plus rien contre toi. Son pouvoir est anéanti. Colossiens 2.15 nous dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur Jésus a dépouillé Satan, mais ne l'a pas encore écrasé. Le diable essaie encore de dévorer, il essaie de tuer, il essaie de détruire, il essaie de voler les croyants. Mais il est dépouillé. La seule puissance qu'on peut lui donner, c'est notre ignorance, ou c'est de croire son verdict et ce qu'il dit à notre sujet. Romains 16.20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Qui va l'écraser? Le Dieu de paix. Qui l'a dépouillé? Le Dieu de paix. Mais déjà dans Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous savons que Jésus n'est pas la femme. Dieu parlait à la femme. Jésus n'est pas la femme. L'Église est la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et nous pouvons lui écraser la tête lorsque nous parlons la parole de Dieu et que nous usons de l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes et il dit, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pourquoi? Elle t'écrasera la tête parce qu'elle est assise dans les lieux célestes et toi tu es en dessous. Et quand elle parle, elle t'écrase la tête. Ça c'est l'Église. L'Église est en haut et voilà, elle domine et elle t'écrase la tête. Qu'est-ce que lui, il peut faire? Te blesser le talon. Pourquoi? Parce que le diable est là et il essaie de te viser avec sa flèche et il ne peut que viser ton talon. Rien de plus. Dernier point, ce qu'il ne veut pas que vous sachiez, c'est quelle est sa fin. Juste un dernier verset, Ésaïe 40. Au verset 10. Je ne suis pas sûr que c'était ce... Ésaïe 41. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets de crainte, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. C'est Dieu qui te parle. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui s'irritent contre toi, tous ces esprits méchants, la crainte et toutes sortes de choses, pensées négatives qui t'amènent par terre. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël, voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de points, tu écraseras. Tu broieras les montagnes, tes circonstances. Tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Tu les vanneras, le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Aucune arme forgée contre nous n'aura d'effet. C'est ce que Dieu nous a donné à la croix. Il nous a donné toutes les armes nécessaires pour marcher dans ce monde, pour lutter, pour réussir. Et même quand la souffrance est là, il nous donne le moyen d'en sortir par la foi. La souffrance peut durer des jours et même des semaines. Mais dans la souffrance, s'il te plaît, Ne regarde pas à cette souffrance, ne regarde pas aux difficultés, n'écoute pas cet esprit de crainte et d'intimidation qui veut t'amener par terre et te dire que tu finiras ta vie parce que tu ne finiras pas ta vie comme ça. Non, tu finiras ta vie en rayonnant, en régnant et en dominant. Tu brilleras et tu seras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu dit pour toi, Église. Je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est puissante. Ta parole, elle est suffisante. Seigneur, nous n'avons pas à nous exciter. Nous n'avons pas, Seigneur, à œuvrer dans la chair. Nous n'avons pas, Seigneur, à nous forcer à faire les choses. Nous avons simplement à marcher selon ta parole. Cette parole est suffisante, elle est puissante. Et je te glorifie pour elle. Voilà pourquoi tout simplement nous prenons autorité contre tout esprit de crainte dans cet endroit. Tous ces esprits méchants qui veulent lier les gens, qui leur disent qu'ils sont incapables, qui leur disent qu'ils vont rester malades, qui leur disent qu'ils vont finir leur vie en train de vraiment de vivre d'une façon misérable. Tous ces esprits qui vous amènent toutes sortes de pensées sont brisés au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils sont dépouillés et c'est ce qu'ils sont dans votre vie. La Bible déclare que Jésus-Christ vous a affranchi, que la vie est pour vous et la vie en abondance. Alors je déclare sur les vies la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Je déclare un peuple libre parce que c'est ce que nous sommes réellement. Esprit de crainte, tu es un esprit de mensonge et Dieu te confond. Dieu te montre, Dieu te dévoile, Dieu montre que tu es menteur et parce que tu es menteur, ta fin est proche et tu n'as aucune autorité dans les vies. Même ceux qui pêchent occasionnellement, ceux qui pêchent de temps à autre, la Bible dit d'eux, ils sont rendus parfaits. Ils sont rendus parfaits et tu n'as aucune autorité sur eux. Ils sont parfaitement pardonnés, parfaitement justifiés, parfaitement délivrés, parfaitement guéris. C'est ce que vous êtes en Jésus. Amen. Alléluia!
Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un message merveilleux. Vraiment, c'était du steak. Et c'était meilleur qu'au Ponderosa. C'était meilleur que le Ponderosa. J'ai vraiment tout déguster, mais je veux manger encore. Ça, l'avantage, quand c'est spirituel, on peut manger encore le même repas. Amen. Et puis, ça va être le CD du mois pour nos partenaires, parce que je crois que c'est un message qu'on a besoin de réentendre. Il y a tellement de choses. Le pasteur Jérémie nous a donné plusieurs choses. Vous devriez vous arrêter aux 5 minutes puis méditer. Parce qu'il y a plusieurs choses là, qu'on a besoin de recevoir, parce que le Seigneur veut qu'on soit vraiment libre. Le diable, lui, il veut nous garder opprimés, nous garder intimidés, comme il a très bien expliqué. Mais Dieu, lui, il veut une vie pour nous, une vie en abondance, parce que déjà tout accompli, faut qu'on marche dans la liberté, qu'on soit pas là en train de soupçonner le mal chez les gens, croire des mensonges, être neutralisé. Mais on est un peuple victorieux, un peuple qui avance dans les voies de Dieu, un peuple dans la joie et dans notre héritage en Jésus-Christ. On va se lever ensemble. Moi, je vais prier aussi, parce que Jérémie a prié, mais je vais prier encore. Seigneur, on veut te remercier pour ce message que nous recevons dans cette maison et nous déclarons que l'esprit de crainte est à l'extérieur de cette église. Nous déclarons une pleine liberté dans cette maison. Nous déclarons que nous entrons tous dans notre héritage, dans notre destinée en Jésus-Christ. Nous déclarons que Jésus est victorieux. Nous déclarons que nous sommes victorieux parce que nous sommes en Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ton onction qui est sur nous, pour ton onction qui coule à travers nos vies et qui fait des ravages dans le royaume de l'ennemi. Je te remercie Seigneur Dieu pour les personnes ce matin qui ont reçu ce message et sur Internet, à la radio. Nous te remercions Seigneur pour cette parole qui va être diffusée aux quatre coins du globe, les personnes qui vont recevoir leur délivrance à cause de cette parole de foi. Nous te remercions Seigneur Dieu et nous voulons t'acclamer pour ta victoire Seigneur Jésus dans cette maison. Nous t'acclamons Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions Seigneur Jésus. Alléluia, nous te louons Seigneur Dieu, tu es le victorieux. Alléluia, gloire à toi Seigneur, sois loué, sois exalté. Nous te louons Jésus, merci Seigneur pour la liberté. Plus jamais enchaîné, nous sommes libres, libres de la crainte. Et dans la foi, nous marchons par la foi. Le mot qui vient, c'est le mot discerner. Dieu vous appelle vraiment à discerner. Le moment qu'une parole, une pensée vient sur vous, contre vous, discerner la source. Discerner tout de suite la source pour vous empêcher de faire, comme on peut dire, comme une glissade. Tu sais, une glissade vers le bas, là. Vous êtes en haut, mais tout d'un coup, à force de penser et à penser, vous vous ramassez vers le bas. Discernez immédiatement quand la pensée vient. Discernez l'origine. Et dites, au nom de Jésus, je vous résiste. Au nom de Jésus. Et là, vous dominez, comme Pasteur Jérémie a dit, dominez sur ces pensées-là. Si ça vous décourage, dominez. Et au nom de Jésus, arrêtez ces pensées-là. C'est à vous de le faire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Avez-vous pris la décision ce matin avec moi? On va dominer, mais il faut discerner pour dominer. Allez-vous le faire ce matin? Amen. On va discerner. Et on va proclamer les hauts faits de notre Dieu. On va dire... Dans les lieux célestes, on va proclamer la grandeur de notre Dieu. On va déclarer notre liberté. On va déclarer notre guérison. On va déclarer la provision. On va déclarer notre pleine liberté de toutes les œuvres de Satan. Et comme on le fait, on fait un ravage contre l'ennemi. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, parce que tu as vaincu la mort. Merci Seigneur Dieu. Nous ne marchons pas dans la mort, nous marchons dans la vie. Nous marchons dans la vie. Nous marchons dans ta vie, Seigneur Dieu. Et je déclare sur chaque tête ici aujourd'hui, ton shalom, rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Vous pouvez louer le Seigneur encore avec nous. C'est la semaine prochaine. Soyez bénis.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.